Le roi de Jérusalem allait devenir frère mineur après la mort du saint et voulut être enterré en 1237 dans l'église supérieure d'Assise. Ainsi François, qui désirait si fort suivre le valeureux Gautier de Brienne et n'y réussit pas, attira dans son troupeau un autre Brienne, roi de la ville du Christ, celui-là. De retour à Acre, il continua à prêcher, et peut-être voulait-il prolonger indéfiniment son séjour pour évangéliser les infidèles dans le pays d'outre-mer. Sa parole agissait comme toujours avec une force inexplicable. Y était pour beaucoup sa présence, comme si l'âme se manifestait visible dans toute sa personne. On voyait aller à lui et rejoindre sa fraternité des convertis inattendus. Un dignitaire, le prieur de Saint-Michel, quitta sa charge et se fit mineur. Jacques de Vitry, l'évêque d'Acre, qui nous fournit cet exemple, nous en donne d'autres, non sans une pointe d'humour. François lui prit un clerc, l'anglais Colin, et deux de ses compagnons. L'un d'eux, Dom Mathieu, chargé d'une paroisse. Rien n'y fit. Il la déserta pour suivre le Poverello. L'attrait était irrésistible. Le chantre voulait partir lui aussi. Il fallut que l'évêque usât de toute son influence pour le garder. Mais il y en eut d'autres qu'il ne put retenir, et toute une garnison d'hospitaliers. L'explication que l'évêque propose est à noter parce que l'idéal franciscain risquait toujours d'être perdu de vue. « L'ordre des frères mineurs, écrit-il, fait d'immenses progrès dans l'univers, et cela parce qu'il suit expressément le mode de vie de la primitive Église et des apôtres. » Abolir le temps. Remonter à l'aube de l'expérience chrétienne, et le monde était sauvé. Qu'en pensait l'Église officielle ? Trop d'hérésie parlait ce langage, mais François adhérait de toutes ses forces à l'Église. Une nouvelle lui parvint à la fin du printemps qui le fit tressaillir. Cinq de ses frères avaient subi le martyre au Maroc en janvier. La joie remplit le cœur de François. Pour la première fois, le sang franciscain coulait chez les infidèles comme il avait jadis coulé chez les païens de Rome. Il n'y avait pas lieu de les pleurer, mais de se réjouir et de remercier le Sauveur. La cause était gagnée. L'Évangile continuait. On passait aux actes des apôtres. Les noms des cinq témoins du Christ furent notés avec enthousiasme. Ils avaient peiné dur pour remporter la palme. À Séville, ayant prêché contre le Coran, ils avaient reçu la bastonnade. C'était bien peu. Ils montèrent en haut d'une tour et hurlèrent à l'imposture alors qu'on glorifiait Mahomet. Ils furent jetés en prison, puis relâchés. Expulsés de Séville, ils allèrent au Maroc tenter leur chance. Là, devant le Miramoline, ils insultèrent la foi musulmane. On les tortura, puis on les chassa du pays. Ils revinrent de nouveau à Marrakech, se glissèrent dans les mosquées où ils reprirent leurs imprécations. Pour se débarrasser de ces gêneurs, le Miramoline, Amir al-Mu'minim, le commandeur des croyants, leur fit offrir des cadeaux. Refusés aussitôt avec dérision. La torture essaya de les faire changer d'attitude, mais ils s'efforcèrent de convertir leurs bourreaux, et finalement, accédant à leurs vœux, on leur trancha la tête. La douceur n'était pas leur fort, ni leur style, mais ils avaient conquis le ciel par la violence, comme les premiers chrétiens. Le frère bien-aimé pouvait être fier de ses enfants, morts à sa place. Mort à sa place. Cette pensée dut lui traverser le cœur. Son martyre à lui, se pouvait-il qu'il l'eût laissé passer dans le palais du sultan d'Égypte? Le pouvoir de séduction de François faisait partie de son drame. Il ne pouvait s'empêcher de l'exercer. Il avait séduit Malik al-Kamil. Mais le sang coulerait un jour, et sa croix l'attendait, large et longue.